ici Annie Martin et voici votre bulletin d'information locale et régionale de CHGA FM. Le conseil municipal de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau se dit très satisfait de la sentence imposée à son ex-directrice générale, Nathalie Lewis, lundi au palais de justice de Maniwaki. Madame Lewis a plaidé coupable à deux chefs d'abus de confiance. Elle a été condamnée à 2 ans moins un jour d'emprisonnement dans la collectivité, suivie de 3 ans de probation. La preuve a démontré qu'elle s'était versée des sommes supplémentaires et avait utilisé la carte de crédit municipale à des fins personnelles. Elle devra également rembourser 30 000 $ à la municipalité ainsi que 100 000 $ supplémentaires sur 10 ans en vertu du code criminel. Pour le maire, cette conclusion représente un véritable soulagement après 2 années de procédure.
Le conseil était content du verdict que Mme Lewis a reçu parce que ça faisait déjà 2 ans que les procédures étaient en cours. On va voir la suite des choses si les conditions vont être respectées. On a au moins un certain montant qu'on va pouvoir recevoir d'ici 10 ans. 5 premières années, c'est un montant de 30 000 $ puis elle a 10 ans pour payer le 100 000 aussi. Je pense que c'est des bonnes nouvelles pour la municipalité.
Il espère que la population accueillera favorablement la décision, d'autant plus que Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau récupérera une partie des fonds perdus.
J'espère que les citoyens vont être quand même assez contents parce qu'on vient à bout de réclamer un peu d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on a des articles qu'on a à la municipalité qui faisaient partie de la fraude qu'il y avait eu aussi. Fait que ça va être une autre discussion à avoir avec le conseil. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Gilles Courchesne affirme qu'il est désormais temps pour la communauté d'aller de l'avant, soulignant que la situation financière de la municipalité est stable et que plusieurs projets sont déjà en cours ou à venir. CHGA FM a demandé à la députée libérale de Pontiac-Kitigan-Zibi, Sophie Châtel, d'expliquer en quoi consiste le programme fédéral de rachat d'armes à feu du gouvernement canadien. Cette demande fait suite à l'adoption par la MRC de la vallée de la Gatineau d'une résolution exigeant que Québec se retire du programme. Le succès du programme d'indemnisation pour les armes à feu de style armes d'assaut repose sur la collaboration des provinces. Le Québec est la seule province participant activement à ce programme. À part le Québec, seules les villes de Winnipeg, d'Halifax et du Cap-Breton ont signé des ententes avec Ottawa. Sophie Châtel insiste sur le fait que seuls les fusils de style assaut sont visés par ce programme.
Ça concerne les armes de style d'assaut. Hein. Donc, ce sont des armes qui sont conçues pour un usage militaire. Et le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien ont décidé que des armes militaires, des armes d'assaut n'avaient plus leur place dans nos quartiers, nos villages. Donc, ont décidé de les retirer.
L'inquiétude provoquée par ce programme fédéral de rachat d'armes à feu provient surtout des chasseurs, des tireurs sportifs et même des agriculteurs qui ont recours aux armes dans le cadre de leur travail. Tous ces gens redoutent de se faire retirer leurs armes à feu. La députée fédérale assure que les armes de chasse ne sont pas concernées par le rachat.
Non, il y a 19 000 armes et modèles qui sont toujours disponibles pour l'achat. Ce ne sont pas des armes d'assaut utilisées par des militaires. Puis je ne pense pas que c'est ça dont les fermiers parlent. Je pense qu'ils ont tous des armes et c'est parfaitement légal de posséder une arme au Canada pour la chasse, pour la ferme, pour les dangers à la ferme et pour le loisir aussi, pour le sport sportif d'ailleurs.
Les propriétaires d'armes doivent s'inscrire au programme de rachat d'ici le 31 mars prochain pour être admissibles à l'indemnisation. Dès le 30 octobre prochain, les armes figurant sur la liste seront considérées comme illégales. Et en terminant, le syndicat du personnel enseignant des Hautes-Rivières émet des réserves à propos des nouveaux baccalauréats en enseignement à distance que l'Université TELUC mettra en place pour permettre aux enseignants non qualifiés d'obtenir leur brevet sans quitter leur emploi. Prévue pour 2029, cette formation flexible reconnaît l'expérience des enseignants déjà en poste, tandis qu'un micro-programme transitoire sera offert dès l'hiver 2027. Bien que cette avenue puisse aider à atténuer la pénurie, le président du syndicat, Daniel Boisjoli, demeure préoccupé.
La diminution des exigences pour l'atteinte du brevet en enseignement. On voudrait pas que la formation initiale, le bac de 4 ans, soit mis de côté au détriment de la qualité de la formation initiale du personnel enseignant.
Au-delà de cette nouvelle formation universitaire, Daniel Boisjoli rappelle qu'il reste encore beaucoup de travail à faire en amont. Le syndicat estime qu'avant d'aller de l'avant avec ce type de solution, il faut d'abord s'attaquer au nombre croissant d'enseignants qui quittent la profession.
Changer les pratiques, puis de favoriser la rétention. On aura beau tout mettre ça en place. Moi, je vois ce qui se passe au quotidien. Je regarde les conditions de travail, la composition de la classe, surcharge de la tâche. Quand même qu'on ferait des pieds et des mains pour les attirer, encore faut-il avoir des conditions qui sont acceptables.
Pour le président du syndicat du personnel enseignant des Hautes-Rivières, les politiciens en place devront montrer davantage de courage politique en plus d'investir massivement en éducation. Les décideurs devraient, selon lui, faire de l'éducation une priorité. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information locale et régionale de CHGA FM.